Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous écouter, d'écouter Radio Foot International aujourd'hui sur RFI. Aujourd'hui, comme chaque jour, plein de choses à vous dire, à vous raconter. Et pour commencer, eh bien, nous parlerons de Liverpool. Premier titre pour les Reds qui ont battu hier les Blues au terme d'une superbe rencontre de la Super Coupe d'Europe. Mais les joueurs de Jürgen Klopp ont dû aller jusqu'au tir au but pour remporter cette Super Coupe. L'équipe dirigée par Frank Lampard a montré qu'il va falloir compter avec Chelsea cette année en Premier League grâce notamment à un extraordinaire N'Golo Kanté sur le terrain. Hommage aussi à l'arbitre de ce match, le trio féminin emmené par Stéphanie Frappard, et honneur aussi à quelqu'un qui était dans les tribunes hier. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Il arrive de la Fournaise d'Istanbul.
Ah, je confirme, il faisait légèrement chaud.
Vous auriez pu nous en amener un petit peu là, parce qu'à Paris on se croit déjà en automne, c'est pas gai. La Bundesliga de retour, le football allemand s'apprête à relancer son championnat quelques jours après la victoire de Dortmund en Supercoupe d'Allemagne. Verra-t-on encore un duel au sommet entre les jaunes et noirs et les ogres bavarois, ou bien y aura-t-il un intrus? Il fait la moue, David Lortolari, bonjour.
Guten Tag, bonjour Annie, bonjour à tous.
Guten Tag. Eh bien, vous allez nous raconter tout ça, n'est-ce pas?
Oui.
Vous avez pris des cours d'allemand pendant l'été.
Oh oui.
Hein, du côté de la Bavière, on vous lisait sur vos tweets.
Tout à
vous
fait.
Étiez là-bas. Enfin, notre page Culture Foot sera aujourd'hui dédiée au grand, peut-être plus grand footballeur de tous les temps, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Diego Maradona, au cinéma grâce à un documentaire qui nous a tous émus, et vous saurez pourquoi il vous a émus, Dominique Sebrac.
Oui, tout à fait, bonjour à tous.
Bonjour, merci de nous avoir donné l'envie d'aller voir ce documentaire dont on vous parlera, et nous aurons le renfort du Réfé pour en parler. Et puis notre stagiaire est là aussi dans ce studio, bonjour Saïd.
Bonjour Annie, les moins de 20 ans, c'est moi.
Oui, c'est pour ça. C'est vous qui nous avez
dit. Mais vous connaissez Maradona quand même.
Oui, quand même.
C'est ça qui est bien.
Non, il connaissait.
C'est que tout le monde le connaît. Quoi.
Mais on essaye de lui donner le virus là. Ouais. Alejandro, il travaille bien, hein, Saïd Hamda.
Tout à fait.
Alejandro, qui est le deuxième Argentin le plus connu au monde.
Et avant Messi.
Avant
bien
Messi.
Sûr.
Évidemment.
Radio Foot, c'est parti.
Fabinho and the tear to Olivier Giroud. He scores for Chelsea. They say Liverpool 0, Chelsea 1 in the Super Cup. Roberto Firmino is in. Jorginho versus Adrian. Oh, how cool is that? Cool is that in the place. 2-2.
Concentration de Taimi Abraham. Adrian off à Liverpool. La Super Coupe d'Europe. Le deuxième titre de l'ère Jürgen Klopp.
Liverpool win the shootout 5-4. Liverpool have added the Super Cup to the Champions League.
La saison commence bien, le match Liverpool-Chelsea nous a offert, malgré l'enjeu moins valorisé qu'une finale européenne, eh bien un très bon spectacle de football, et les clubs anglais, évidemment, Salim, ils sont pour quelque chose. Les Reds l'ont emporté, mais les Blues ont vendu très cher leur défaite, allant jusqu'où ils pouvaient aller, au-delà même sans doute de leur capacité. En tout cas, Sadio Mané était honnête, un honnête vainqueur à la fin du match.
C'est le haut niveau. Des fois, il faut pas toujours s'attendre à être physiquement prêt pour bien jouer ou pour gagner quelque chose. Je pense qu'à un moment donné, c'est le mental. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a montré, même si c'était pas notre meilleur match. Et voilà, c'est ça, quoi, en fait. On a essayé de jouer avec tout ce qu'on peut. Et puis, voilà, on a été récompensé. Je pense que, voilà, on méritait de gagner ce soir. Donc, on est tous heureux.
Il méritait de gagner, dit-il. En tout cas, on a eu l'impression, Salim, que cette équipe, elle a gagné au moral, au mental, comme on dit, à la volonté. C'était un peu à l'image peut-être de Jürgen Klopp face à une équipe de Chelsea qu'on disait pas favorite et qui a bien failli l'emporter.
Oui, vous résumez bien les choses. Et même Sadio Mané, au final, dans sa réponse, il dit deux choses. Parce qu'à la fin, il dit on a mérité de gagner. Et au début, il disait
ça
on
n'a
sans doute pas fait notre meilleur match, c'est pas notre meilleure prestation, parce que c'est un fait. Liverpool, au final, au point, entre guillemets, dans cette partie, c'est plutôt Chelsea qui a été dominateur, qui a eu les meilleures occasions. Adrian, dans la cage, on en parlera du gardien aussi, qui a fait ce qu'il fallait. fallait à certains moments clés. Donc Liverpool a fait le dos rond, a marqué à des moments clés aussi, hein, notamment au tout début de la seconde période lorsque Firmino entre, en début de prolongation de la première période de la prolongation lorsque avec ce but de Mané. Donc Liverpool a eu de la réussite, a eu donc de la chance, a tiré au but également. Oui, l'expérience, sans doute le mental aussi, ça sert peut-être de gagner une Ligue des Champions comme ça. Ça sert, j'ai presque envie de dire, de perdre d'autres rencontres par le passé. La finale de la Ligue des Champions, il y a un peu plus d'un an, et puis d'autres finales, notamment finale d'Europa League mm-hmm, aussi. Ouais. Donc tout ça accumulé fait que on avait une équipe qui avait une certaine expérience et l'autre qui en a très peu au final, hein, avec des jeunes, celle de Frank Lampard. Donc c'est plutôt logique sur ce point-là de voir Liverpool s'imposer.
Dominique, on a l'impression surtout que pour les Reds, une nouvelle ère a commencé avec cette victoire en Ligue des Champions. Jürgen Klopp avait dit hein, maintenant on va tout gagner. Il ne voulait pas d'ailleurs mal disons traiter ce titre de Super Coupe d'Europe, hein, un match peut-être pas aussi regardé qu'une finale de Ligue des Champions.
Ce qui est bien déjà, c'est que Annie, c'est qu'on reste sur les standards de la Coupe d'Europe de cette année, c'est qu'on a encore eu un match renversant, encore eu un match à rebondissement.
À la mi-août, c'est ça qui est impressionnant quand même.
Oui, mais c'est reste sur les standards de tout ce qu'on a vécu dans la deuxième partie de la première partie de l'année 2019, la deuxième partie de la Coupe d'Europe, avec tous ces matchs fous grâce à la
Mais je me souviens de Super Coupe très disputée quand il y avait Séville, hein, aussi.
Ça, même l'an dernier, Atlético quand ils sont passés face au Real en prolongation aussi, ça avait été aussi
super match.
Ce qu'il y a de bien avec Liverpool, Annie, vous l'avez dit, c'est que la marque Klopp continue à prospérer. Alors parfois il perd des finales, ça lui est arrivé en Ligue Europa ou en Ligue des Champions.
Mais il perd avec panache, non?
Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que ça change, ça doit pas changer. Ça doit pas changer notre regard. C'est pas parce que évidemment que on est dans la culture du résultat, c'est celui qui gagne qui a raison. Mais non, il avait perdu et on voyait bien que il se passait des choses, qu'il était trouvé une équipe et tout ça. D'ailleurs, il la change très peu à la marge chaque année. Ils font pas des recrutements à 6 joueurs. Voilà, bon là ils ont un gardien remplaçant qui a déjà pu jouer parce qu'Alisson s'est blessé contre championnat contre Norwich et voilà, il y a très peu de recrues, ça bouge très très peu et on s'aperçoit que voilà, maintenant il est dans la phase de gagner, c'est sa troisième finale en deux ans. Alors il y en a une perdue contre le Real Madrid dans des conditions un peu spéciales, ils ont Sergio Ramos a blessé Salah très très vite
et puis c'est un gardien qui avait des mains en mousse, hein.
Voilà, Karius qui était pas forcément le meilleur gardien du monde. Donc voilà, depuis ça s'est amélioré, ils ont pris Alisson, ils sont tombés non pas sur le Real Madrid cette fois-ci en finale, mais sur Tottenham. Il y a eu un penalty très très rapide en finale de Ligue des Champions. Et puis voilà, maintenant ils sont sur la coupe. Bon alors voilà, c'est pareil pour Lampard. C'est pas parce qu'il a perdu hier que ça change un peu.
Franchement,
on peut pas dire que Chelsea est à la rue. Voilà, ça se joue sur rien.
Non, on les avait vus, disons mal embarqués, mais avec des bémols.
Moi, je crois pas. C'est toutes les histoires d'expérience, tout ça, parce que l'Ajax nous a montré qu'on pouvait avoir 19 ans et rayonner sur l'Europe. Mais force est de constater qu'il doit y avoir un petit supplément qui a aidé Liverpool à passer. À s'imposer au final, puisque bon, voilà, c'est un petit peu le gros qui a gagné.
Le favori, en tout cas.
Malgré les soubresauts du match.
Ouais, mais alors c'était 2-2, et après, c'est tirs au but où on en a un qui
échoue. C'est encore plus une loterie.
Voilà, 5-4. Est-ce que le petit supplément d'âme ou de force, David Ortolari, c'était le gardien, puisqu'on évoque Alisson Becker qui est excellent.
Vous me questionnez sur les gardiens sur lesquels j'ai travaillé pendant des mois.
Justement, oui, votre livre dont il faudra qu'on parle dans Radio Foot. Mais en tout cas, Adrian qui, au pied levé, on peut dire, hein, maintenant, doit remplacer en tant que numéro 2 Alisson Becker.
Oui, parce que je suis pas trop d'accord avec une opposition trop franche qu'on ferait entre une équipe très expérimentée, qui a accumulé des succès, qui a un passé, et une équipe si jeune que ça, parce que bien, c'est vrai que Frank Lampard débute son parcours d'entraîneur, mais il y a quand même dans cette équipe de Chelsea, sans qu'on veuille faire une liste, des joueurs qui ont des galons, des joueurs qui ont une certaine expérience dans divers championnats, etc. Donc je suis pas trop d'accord.
Même un champion du monde.
Oui, voilà. Ah non, l'avancement, bien sûr.
Deux même.
Oui, deux.
Giroud et Kanté.
Ah oui, pardon.
Et qui ont été importants hier.
Heureusement qu'ils vous avaient oublié, Ali. Hein.
Mais pour dire que
celui qui marque quand il est pas en Coupe du Monde.
Pour dire qu'effectivement il n'y avait pas forcément un gap si grand ou une telle différence entre une équipe qui viendrait toute jeune, toute verte, toute tendre et une équipe si forte en face. Oui, la différence a dû se faire à des postes clés aussi dans un match comme ça.
L'entrée de Firmino notamment, non?
Exactement. Vous avez souligné l'abattage de N'Golo Kanté. Évidemment, Firmino, c'est essentiel. Alors après, on va pas non plus s'enflammer sur le coaching de Jürgen Klopp, parce qu'il a fait rentrer Firmino à la place d'un joueur qui avait été défaillant en première période. Et je sais plus quel est le deuxième remplacement, mais c'est pareil. Et
Alexander Arnold qui rentre aussi.
Oui, hein, Oxlade-Chamberlain qui sort. Ouais. C'était pour Firmino. Il y en a aussi un autre qui n'avait pas été performant en première période, qui a été
Milner aussi. Qui
est sorti, c'est de la correction qui est tout à fait logique de la part d'un entraîneur. Il y a rien de magique à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans un match comme ça, où pour moi il y a pas une différence si énorme entre les rouges et les bleus, oui, les postes essentiels, l'avant-centre, un passeur décisif et un gardien sont essentiels pour faire basculer le match, quelle que soit l'expérience du gardien en l'occurrence.
Juste quand on évoque le gardien, je le rappelle, hein, Adrien, l'ancien gardien de West Ham, lorsqu'il y était, notamment sur les deux dernières saisons, il a que très peu joué, même quasiment pas. La saison dernière, il n'a pas joué puisque Fabianski le barrait sur ce poste-là. L'année d'avant, très peu également. Donc là, il est arrivé en fait vraiment par hasard, parce que Mignolet est en partie, Liverpool avait besoin d'un gardien numéro 2, il était libre, Liverpool l'a récupéré, mais il n'y avait aucune idée, aucune volonté qu'il joue peut-être éventuellement en Coupe de la Ligue. Et encore, Alisson se blesse, et alors qu'il n'avait rien gagné dans sa carrière, et bien deux matchs après, il gagne une Super Coupe d'Europe.
Et l'intérim va durer, parce que Klopp a annoncé qu'Alisson en avait quand même pour plusieurs semaines.
C'est donc ça, entre 4 et 8 semaines, donc c'est potentiellement potentiellement une dizaine de matchs, dont un voire deux matchs de Ligue des Champions.
Le Mollet, c'est toujours très gênant. In fine, un deuxième gardien pendant ce temps-là, parce que si Adrien se blesse...
Liverpool a le droit de se faire prêter en interne, en Angleterre, effectivement, un gardien. Il viserait potentiellement un gardien de Ligue 1 ou de Ligue 2. Oui, puisque donc de division très faible, un gardien qu'ils connaissent, mais c'est un poste attention danger, parce que si Adrien se blesse, et Dominique le dit très bien, vous auriez soit des jeunes qui sont là, des jeunes de la réserve, mais qui sont donc très tendres, ou encore une fois un gardien qui serait d'un niveau plus faible, et là Liverpool sera en danger.
Et l'année dernière, ils ont gagné la finale, ils ont gagné les champions, mais pour sortir de la poule, ça a été compliqué. Il y avait Naples, il y avait l'Étoile Rouge,
et parce qu'il y avait un gardien exceptionnel qui aurait pu le faire.
Donc ils avaient perdu tous leurs matchs à l'extérieur dans cette poule, donc faut qu'ils fassent attention, Liverpool.
Le Sénégal. Et Sadio Mané, double buteur. On y reviendra à Sadio Mané, mais arrêtons-nous quand même un instant encore sur les Blues. Les Blues qui, sans doute, peuvent avoir des regrets. Ils ouvrent le score, donc, avec le champion du monde, Olivier Giroud. Et ils échouent avec gloire, on peut dire, parce qu'ils s'étaient pris un 4-0 pendant le week-end. Déjà dit, hein, dans Radio Foot, effectivement, c'était un peu cher payé, peut-être, hein, pour un match qui n'avait pas été si mauvais, mais en tout cas, encaisser 4 buts dans la tête, ça devait pas être très gai. Et là, tout d'un coup, le rayon de soleil est revenu dans cette équipe déjà bleue, grâce au petit génie de leur rang, revenu donc en grâce, surtout aux yeux de l'entraîneur qui a succédé à Maurizio Sarri, à savoir le champion du monde, l'autre, et notre champion du monde, N'Golo Kanté, encensé, écouté par Franck Lampard.
Kanté est un joueur incroyable. Il est modeste, mais sur le terrain, c'est une machine. Il ne s'est pas beaucoup entraîné et il avait la cheville enflée il y a deux jours. Mais il a joué 120 minutes et on a pu voir ce qu'il apporte à l'équipe aujourd'hui. Je suis ravi de travailler avec lui. Il va être énorme pour nous cette saison.
Est-ce que les Blues redécouvrent N'Golo Kanté, Salim?
Non, ils le redécouvrent pas, parce qu'encore une fois, on l'a évoqué à juste titre, l'importance de Kanté durant les dernières saisons.
Parce que l'année dernière, on a eu le sentiment que ce champion du monde arrivait alors qu'il avait impressionné tout le monde, et Sarri le mettait un peu
à un poste qui n'était pas forcément
Jorginho.
Exactement, parce que Jorginho qui était là, qui était l'homme de base au final du système Sarri. Même si d'ailleurs, on remarquera qu'hier, Kanté a plutôt joué, alors je ne vais pas comparer les systèmes parce que c'est très fluctuant au final sur une pelouse et pendant une rencontre, mais Kanté était très haut sur la pelouse, hein, il n'était pas au poste de numéro 6 comme on pouvait le connaître en équipe de France, etc. Il était très haut, mais moi je vais oser, et pardon pour ceux qui vont sans doute m'insulter en m'écoutant, mais hier quand j'ai vu Kanté, hier, le match qu'il a fait, la qualité, ça m'a un peu fait penser, ce n'est pas la même compétition évidemment, à un Zidane Brésil 2006, le quart de finale de Zidane qui est un chef-d'œuvre absolu, mais hier ce que fait Kanté, c'est hors norme dans tout ce qu'il fait, dans la récupération de balles, dans la manière de relancer son équipe. On a l'impression que c'était pas un numéro 6, numéro 8, il était numéro 10. C'était lui le métronome qui distribuait à droite, à gauche, pied droit, pied gauche, qui tentait même de frapper. Enfin, il avait une vision de jeu. J'ai jamais vu Kanté à ce niveau-là. Alors que Kanté nous propose régulièrement des rencontres de très très haute volée, mais là c'était un Kanté 5 étoiles, 6 étoiles. Je n'ai jamais vu Kanté à ce niveau-là.
Il est parti de Caen pour 5 millions d'euros à Leicester, ça ?
C'est ça.
Mais Dominique, est-ce que finalement, alors, c'est un peu quarantaine l'année dernière avec Sarri, hein, qui l'utilisait moins et pas au poste qu'il
était. Qui l'utilisait beaucoup, mais qui utilisait un poste qui n'était pas le sien.
Oui, mais pas d'une manière aussi au début de saison, on se souvient. Hein. Est-ce qu'il s'est bonifié alors ?
Non, je pense que il y a la Coupe du Monde qui est passée par là. Vous savez que tous les Français, peut-être à part Lloris et Mbappé, ont quand même souffert. Hein, tous ont eu des difficultés dans leur club et tout ça. Et donc N'Golo Kanté, il a pas échappé. Pogba, il a eu quand même un bon mois avec Solskjaer, mais toute la saison a été compliquée, ou avec Mourinho ou avec Solskjaer. Puis d'autres, hein, Griezmann n'a pas fait sa meilleure saison. Blaise Matuidi n'a pas fait sa meilleure saison avec la Juve. Varane a eu beaucoup de difficultés, donc ça c'est l'effet post-Coupe du Monde, il n'y a pas échappé parce qu'il avait été très important pour la Coupe du Monde. Moi je pense qu'on ne peut pas être champion, on peut dire de beaucoup de joueurs, hein, mais on peut vraiment pas être champion du monde. La France n'aurait pas pu être champion du monde sans N'Golo Kanté. Et en finale il n'est pas bon du tout, en finale de la Coupe du Monde, parce qu'il n'est pas forcément très bien, et cette finale elle est un peu bizarre, on sent que la Croatie peut revenir à chaque moment. Donc voilà, je pense qu'on est en train de retrouver le vrai N'Golo Kanté. Et en plus, ce qu'il y a de différent avec l'image qu'on en a en France, c'est qu'il est vraiment polyvalent. C'est que, comme l'a expliqué Salim, il peut jouer à la fois 6, 8, 10 sur une même action. Il est capable de récupérer, de donner et voire de créer. Ça, c'est quand même, il y a très peu de joueurs au monde qui ont autant de facilité.
Au sujet de ce match hier soir, il y a un fait peut-être à noter encore, hein, c'est la personne que théoriquement on essaye de ne pas voir dans un match, mais qui là a été plutôt discrète et efficace, c'est l'arbitre, et en plus qui n'était pas un homme en noir mais une femme en jaune et noir, à savoir la Française Stéphanie Frappard-Écouton, dans la lumière européenne, hein, elle qui se frottait avec son équipe féminine à un match d'une intensité énorme, elle a forcé le respect, et notamment de Jürgen Klopp.
J'ai dit au corps arbitral après la rencontre que si on avait joué comme elles ont arbitré, on aurait gagné 6-0. C'est mon opinion, elles ont fait un superbe match. Je leur ai aussi dit que je n'étais pas d'accord avec le penalty, car je ne suis toujours pas convaincu qu'il y avait penalty. Mais ça n'a plus d'importance. Elles ont vraiment été performantes. Quoi qu'on ait pu penser avant le match, elles avaient énormément de pression sur elles. C'était un moment historique. Elles sont restées concentrées, calmes. Elles ont fait ce qu'il fallait faire, pris des décisions compliquées dans un match si intense. Je ne pourrais pas avoir davantage de respect. C'était parfait.
Est-ce qu'elle vous a impressionné, Stéphanie Frappard, David Lortolari, hier ?
Non, parce que je trouve que c'est dans la continuité et dans la logique de... Alors, je dirais pas de l'air du temps, parce que ce serait un peu condescendant et ce serait un peu peut-être un jugement de valeur.
Mais c'est en fait.
Mais ça fait quand même quelques années, sans parler de quelques exceptions passées, mais ça fait quand même quelques années qu'on est prêt à ça, que le public, l'environnement y est quand même assez largement préparé. Pour sa performance à elle. Oui, c'est un fait qu'on va pas lui donner de mauvais points. Oui, on est d'accord. Mais... Enfin, moi, ça me surprend pas qu'elle réussisse une performance comme ça, qu'un arbitre féminine réussisse une performance comme ça, parce que on en a vu déjà dans les premières divisions les dernières années. Ouais, ça fait 4-5 ans qu'on voit ça.
Il y a pas mal de portraits qu'on fleurit dans la presse française récemment, parce qu'on savait qu'elle allait arbitrer la Super Coupe. Il y en a eu une double page dans le Parisien dimanche par Sylvie de Macedo. J'ai lu l'article attentivement. En fait, depuis très longtemps, elle est d'une compétence absolue, cette femme. Elle est extrêmement forte. C'est peut-être très rapidement le meilleur ou la meilleure arbitre français, je sais pas comment il faut dire, si on masculinise tout, on dit que ça va devenir le meilleur arbitre français. D'ailleurs, je serais bien un peu en difficulté pour dire si c'est Turpin, Buquet aujourd'hui, mais bon, voilà, on a quelques-uns de bons qui sont rarement quand même en finale de Ligue des Champions ou dans le dernier carré ou dans les finales de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe quand la France y est pas. Et pour moi, elle est en train de s'imposer comme la meilleure arbitre française. Elle est et son parcours, tous ceux qui racontent son parcours, tous ceux qui racontent ses premiers matchs, quelles que soient les divisions où elle a arbitré, racontent une femme d'un calme incroyable, d'une femme qui parle bien aux acteurs du football, d'une femme qui explique quand il faut ses décisions, une femme qui se trompe extrêmement rarement, une femme qui en plus aujourd'hui sait utiliser la VAR, parce que ça c'est un truc qui quand même vient perturber les arbitres. On l'a longtemps demandé, la vidéo, mais il faut reconnaître quand même que ça change un peu leur arbitrage, parce que par exemple aujourd'hui sur les mains qui sont quasiment toutes sifflées. On l'a vu dimanche, PSG Nîmes, l'arbitre ne peut ne pas le voir, même des joueurs ne peuvent pas la voir. Et puis la VAR vous appelle. Elle sait maîtriser aussi donc l'outil. Je lui trouve très très peu de défauts pour l'instant. Elle est appelée à avoir un destin incroyable, cette femme.
Mm-hmm. Juste, David parlait de l'accueil aussi, au final, le fait que le public s'apprêtait depuis quelques années à effectivement avoir des arbitres femmes. Hier, quelque chose que j'ai remarqué, notamment avant le match, lorsque les arbitres font le tour de la pelouse pour voir l'état de la pelouse, des filets, etc. Elle s'approchait à un moment donné d'une cage pour vérifier ce filet, et on observait les applaudissements du public, des applaudissements sincères, hein. N'y voyait aucune moquerie ou quoi que ce soit, non. C'était vraiment sincère. Merci d'être là, Madame Frappard. On va vous soutenir, on va être avec vous. Et même pendant l'échauffement, il y avait beaucoup d'applaudissements de la part du public. Donc, comme quoi, elle était attendue, mais attendue de manière bienveillante. Et au final, c'est plutôt bien passé.
On a vu que les stades en France étaient pleins pour la Coupe du Monde féminine. On voit que le public réagit bien à un arbitre féminin. Ça serait bien que ce sport qui est peuplé de machos, de beaufs, de gens extrêmement misogynes et sexistes, comprennent qu'il y a une demande des gens pour que le football se féminise, pour que la femme a toute sa place dans ce sport-là. Mm-hmm. Ça serait bien que les acteurs eux-mêmes, qui sont souvent d'affreux sexistes, le comprennent.
Mais elle sera d'ailleurs en Ligue 1 cette saison.
Mais maintenant, c'était au final un coup de com' de la part de l'UEFA aussi, hein, puisque
qu'elle est compétente.
Je m'exprime quand même, parce que il y a eu une conférence de presse avant match, faut-il le rappeler, avec un arbitre. Oui. Jamais dans l'histoire, enfin moi je me souviens pas d'une grande rencontre à un haut niveau où vous avez l'arbitre qui va faire une conférence de presse avant match. Mm-hmm. Une conférence de presse organisée par l'UEFA en l'occurrence,
donc
qui voulait symboliser évidemment la chose. Après, donc Stéphanie Frappard a fait évidemment un bon match. Maintenant, je veux voir la suite, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, que ce soit elle, d'autres femmes qui viennent arbitrer en Bundesliga. On voit des femmes qui arbitrent depuis très longtemps de manière compétente également.
On peut même aller plus loin.
Là, j'attends de voir maintenant si ces femmes-là vont être en Ligue des Champions, en Europa League aussi.
Rapidement, Annie, mais on peut même aller plus loin dans notre raisonnement. Dominique parlait de la réception du public et des gens du football. Je pense, moi, que ça fait du bien au football masculin. Techniquement,
ah, bien sûr.
Parce que, on va pas aller bousculer une arbitre femme, etc. Il y a des choses comme ça, qui semblent intégrées et qui font du bien, qui vont peut-être aussi avoir une influence sur l'ensemble.
Ce serait bien de pas bousculer les arbitres hommes.
Mais c'est pour ça que je dis ça, parce que rejaillir sur l'ensemble des rapports entre les joueurs et les arbitres, c'est tant mieux.
Alors messieurs, j'aimerais qu'on termine de parler de cette Super Coupe d'Europe par un thème et quelque chose qui a surgi juste avant l'émission, hein, Saïd, on en parlait juste avant. C'est trois finalistes pour le titre de meilleur joueur européen de l'année, titre qui sera remis le 29 août prochain. La liste est sortie et je dois dire que dans le bureau déjà ça nous a surpris. Habib Bey ne décolère pas depuis tout à l'heure.
On peut le dire, hein, vous envoie des textos, il n'en peut plus. Hein.
Les trois personnages sur la liste, alors il y en a trois, il y en a déjà deux qui sont, comme d'habitude, ils ont leur ronde serviette et on les met toujours. Quel que soit ce qu'ils font.
Un petit Argentin peut-être.
Un Argentin portugais.
Alors, Alejandro nous rappelle, meilleur buteur européen, certes.
Oui, donc, le soulier d'or.
Meilleur buteur des championnats européens et de la Ligue des Champions cette année. Mais en plus...
Donc c'est Messi.
C'est Messi. Il y a aussi Cristiano Ronaldo.
Oui.
Hein, parce que il a marqué quelques buts.
Il y a là, il s'agirait de pas faire l'un
et ne pas oublier l'autre.
Voilà, il ne faut pas les vexer. Et puis il y a Virgil van Dijk.
Ouais, meilleur défenseur du monde.
Il manque quelqu'un pour vous, au moins quelqu'un. Alors on va parler évidemment, on va dire son nom, Sadio Mané. Sadio Mané, le Sénégalais. Mais Sadio Mané qui est champion d'Europe, qui dispute la CAN, qui est finaliste de la CAN. Ils ne l'ont pas gagné, mais tout le monde ne la gagne pas. Mais au moins ils sont finalistes. Mmh. Et puis qui là en plus gagne la Super Coupe d'Europe. Et à la fin du match, on vous balance une liste où il est.
Mahrez, il a pas gagné trois titres aussi cette année.
Mahrez avec la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat d'Angleterre qui a été remporté par l'Algérie aussi.
La Coupe de la Ligue, qui a été remportée par
Manchester City. Vous avez, pourquoi pas, même Mohamed Salah, qui a fait un parcours avec Liverpool remarquable aussi pour au final gagner la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Le problème, déjà, c'est ces shortlists avec trois noms. Rappelle, d'une part. D'autre part, je rappelle, et je vais être méchant et condescendant vers ce prix UEFA. Alors, on va me dire, sans Sadio Mané qui n'est pas sur la liste, c'est un scandale. Évidemment que c'est un scandale. C'est un fait. Mais ce prix UEFA, je rappelle que dans les meilleurs entraîneurs, par exemple, parmi les meilleurs entraîneurs nommés, il y a Didier Deschamps, par exemple, cette année. Qu'est-ce que Didier Deschamps a fait cette année pour être nommé? Je veux dire, cette liste, elle est faite.
Faite par un jury de 80 personnes, ouais, j'ai noté.
Oui, avec des anciens footballeurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais parfois, je vois la liste et je me dis...
80 entraîneurs qui ont participé à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa et 55 journalistes.
Oui, ben, on se pose parfois des questions, encore une fois, parce que je vois la liste, notamment, je me base sur celle des entraîneurs encore plus, c'est celle qui est encore en tête. Ils prennent le nom de celui qui a gagné la Ligue des Champions, le nom de celui qui a gagné la Première Ligue, le nom de celui... Et c'est très simple, le nom de celui qui a gagné la Coupe du Monde, même si la Coupe du Monde n'est pas cette année. Hein.
Bah, oui, mais c'est pas européen, il n'y a pas de français, justement.
Comment? C'est pas européen.
L'année dernière, il n'y a pas de français.
Oui,
bah... Alors que la France venait de gagner la Coupe du Monde.
Oui, il est logique, en fait. Il n'y a pas de logique.
Il y avait des polémiques chaque... Bah, en fait, on devrait dire quel est le troisième, en fait, puisque donc, on met Messi, Cristiano Ronaldo chaque année, tant qu'il joue au foot.
Oui, mais alors, si on raisonne comme ça, c'est justifié, parce que Van Dijk a été vraiment fort.
Oui, mais moi, ça me choque pas.
Non, mais c'est sûrement lui qui justifie le plus.
Vu qu'il reste plus qu'une place. Chaque année, puisque l'année dernière, il n'y avait pas de français, mais il devait y avoir Messi et Cristiano Ronaldo. Et puis le troisième, ça devait être Salah. Donc, Modric.
Oui, c'était Modric l'année dernière.
Voilà, bon, bah,
Messi l'a déjà gagné deux fois, Ronaldo trois fois.
Il y a quand même deux, trois bons footballeurs sur Terre. On a quand même échappé à Neymar. Ça, c'est pas mal. On a quand même échappé à ce qu'ils aient mis Neymar, parce que bon, il aurait pu se dire, bah, il est quand même 120 millions de followers. Non. Et quand même, ils ont regardé après, deux, trois matchs et ils ont vu qu'il était pas là.
Évidemment, oui. Encore une fois, ça peut être un scandale de pas avoir Sadio Mané. Le problème, c'est que vous avez une shortlist à trois. Si c'était comme les entraîneurs.
C'est un scandale. C'est pas que ça peut être. Ça l'est.
Mais évidemment, ça l'est. Bon. Mais si vous aviez une shortlist comme pour les entraîneurs à 10 noms, bah là, Sadio Mané aurait été dedans. Voilà.
Bon.
Ce qui serait marrant, c'est qu'il soit élu, Sadio Mané, sans être dans la liste. Est-ce que c'est possible ça
Non, c'est pas possible. Trop facile.
Non, je pense que la liste, là, c'est ceux qui arrivent.
C'est parfois, dans les élections, vous savez, on peut voter pour quelqu'un qui n'est pas, pas bulletin.
Ouais, tout à fait. Par exemple, pour les élections présidentielles, vous pouvez voter pour Dominique Sévrac.
Moi, je mets Annie Gasnier,
votre bulletin.
Je mets Annie Gasnier, chacun.
Non, non, surtout pas. Par contre, on peut dire quand même un petit mot à Bib. Bib, on est solidaires tous ici à Radio Foot. On vous oublie pas.
The Bundesliga. A new season. The same old goals.
Die Bundesliga geht in die nächste Runde. Die Top-Favoriten auf die Meisterschaft.
Back in Freiburg on loan from Hoffenheim.
Et c'est parti, la Bundesliga continue, mais elle continue sans eux. Sans eux, David.
Oh là là.
12 ans et 427 matchs pour Franck Ribéry, 10 ans et 312 matchs pour Arjen Robben. Et il faudra faire en Allemagne 100. Est-ce que les supporters vont le supporter et s'en remettre?
On n'a pas encore mesuré l'impact. Enfin, on est en train de le mesurer. Les journalistes, les supporters, certains sont... littéralement, c'est même pas qu'ils sont sous le choc, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'il va y avoir derrière. Ils n'arrivent pas à se l'imaginer.
Même si on les voyait moins ces derniers temps, c'est vrai que c'était synonyme.
Parenthèse, David, il suffit de se retrancher 12 ans à notre âge.
Oui,
pour
c'est
se
ça.
Dire, pour
nous,
se dire
c'est
à quel point c'est une époque quand même. Parce que si on s'enlève 12 ans, on se dit, ah oui, mais à l'époque, j'avais que ça. Ah oui, j'étais pas mal. En
ah bon, ça vous fait
alors
ça
que maintenant, je suis arrivé un vieux croulant des
journaliste, Dominique a raison de parler des journalistes parce que dans les conférences de presse, tout ces derniers jours, il y a toujours une question qui revient encore sur ces deux-là. Alors après, c'est sur un aspect précis, c'est parce que le Bayern, qui est toujours encore l'un des favoris, sinon le favori, a du mal à...
La transition.
Voilà, a du mal à recruter des joueurs pour les remplacer. Donc les questions reviennent sur ces deux-là. Et oui, la réponse, c'est que l'impact a été tel et a été sur une telle longueur. Même les présidents, lorsqu'ils ont recruté ces gens-là, n'imaginaient pas que ça dure 10 ou 12 ans. Donc oui, ça va avoir encore, on va encore en parler pendant la saison forcément.
Donc ils sont partis. Et une nouvelle ère plane donc en Allemagne, même si, à nouveau, on semble s'orienter vers un mano à mano entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Acte 1, la Supercoupe d'Allemagne, qui a sacré les jaunes et noirs, vainqueur 2-0, c'était clair et net. Est-ce que c'est le coup d'envoi de la saison, ce Borussia qui a osé dire, suivant certains de nos confrères, qu'il visait le titre cette année, et il l'a vu de si près, on a regardé tout à l'heure Saïd, c'est 22 journées en tête de la Bundesliga pour Dortmund.
Oui, c'est un coup d'envoi quand même, même si pour ma part je suis toujours très sceptique par rapport à des matchs qui sont avant le championnat, parce que des états de forme différents, des préparations différentes, des voyages différents, certains vont en Asie, d'autres vont aux États-Unis, donc il faut encaisser tout ça. C'est toujours compliqué de comparer deux équipes au mi-août, pour ce qui est d'un championnat qui va reprendre là dans quelques heures. Mais c'est quand même un coup d'envoi important parce que Dortmund, justement, avait frappé vite et fort pour ses transferts et ses recrues cette saison. J'en cite deux, Julian Brandt, le petit meneur de jeu magnifique de Leverkusen, renforce Dortmund. Et puis, Thorgan Hazard, qui a été très bon avec Mönchengladbach, est aussi arrivé. Donc Dortmund a pris de l'avance sur le Bayern, et quelque part, c'est une analyse un peu rapide, une synthèse peut-être un peu hâtive, mais le 2-0 de Dortmund sur le Bayern, c'est simplement le symbole que Dortmund avait fait les choses vite, bien, et avait pris de l'avance.
Recruté. Dominique ?
Alors moi j'ai plusieurs questions, mais sur le Bayern.
Ah ben oui.
Alors, vous êtes là David pour y répondre.
Alors, oui.
Alors le Bayern, si vous juste une chose après. Sur le Bayern. Non, mais Niko Kovac c'est donc toujours là.
Oui.
Mais l'effectif, donc orphelin des deux noms qu'on a déjà cités, semble peut-être un peu en deçà des ambitions, même s'ils ont donc recruté, on le sait. Alors là aussi des champions du monde, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, et plus récemment Peridzic, qu'on connaît bien en France pour avoir joué donc la finale de la Coupe du Monde,
ouais.
Effectivement. Mais Robert Lewandowski, on va l'écouter juste avant vous, Dominique. Lewandowski, il n'est pas vraiment satisfait des hommes qu'il a sur le terrain. Alors, il avait déclaré ça avant que Peridzic ne joue à ses côtés, mais quand même, écoutons-le.
Pour moi, le recrutement n'est pas encore achevé. Nous avons trop de joueurs, ou plutôt pas assez de joueurs de classe internationale, pas assez de cadres. Il est clair que cela nécessite un peu de temps et des discussions. Ça n'est pas seulement moi, mes coéquipiers attendent aussi de nouveaux renforts. Il ne s'agit pas d'un ou de deux joueurs, il me semble évident qu'il en faut plus pour nous mettre en concurrence, mais aussi pour les phases d'entraînement. Il nous faut des joueurs de la qualité d'Arjen Robben. J'espère que les dirigeants du club travaillent à cet objectif. C'est une étape nécessaire pour renforcer l'équipe. Nous n'avons pas seulement besoin de jeunes, il nous faut des joueurs capables de jouer tout de suite au plus haut niveau. C'est clairement notre souhait, je suis sûr que ça va se produire et que nous allons très vite les trouver.
Voilà, il n'est pas content, Lewandowski.
Il est polonais,
hein.
Mais il parle un peu à l'allemande. Hein, et il dit les choses. Hein.
Il dit les choses, c'est carré. Voilà, c'est pas assez de cadre, notamment.
Non, ouais,
c'est ce effectivement. Alors, Dominique.
Alors, ouais, moi, je veux savoir pourquoi... Alors, j'ai beaucoup de questions. Niko Kovac, est-ce qu'il va tenir sa place si les résultats sont pas bons? Est-ce qu'il va sauter très vite?
Parce la réponse.
Parce que l'année dernière, il a failli sauter. Pourquoi le Bayern a changé sa politique en termes tarifaires? Est-ce qu'il s'adapte au nouveau monde avec des transferts très chers? Parce que il y a encore 2 ans, c'était Tolisso le transfert le plus cher de l'histoire, à 40 ouais. millions d'euros.
Et il tempêtait contre le PSG et ses attitudes.
Voilà, ils achètent des clauses à 80. Ils étaient prêts à mettre beaucoup sur le Roi Sané, une centaine de millions d'euros
à Marquinhos. Ouais.
Donc voilà, peut-être que Dembélé pour acheter Neymar, Barcelone va vendre Dembélé au Bayern, peut-être 100 millions d'euros. Donc pourquoi ils ont changé leur politique tarifaire? Voilà, c'est mes deux principales questions.
David, à vous la réponse.
Niko Kovac, même s'il affiche toujours beaucoup de bonne humeur, d'optimisme, des sourires, de la politesse, un très bon rapport avec ses interlocuteurs, Niko Kovac évidemment est en permanence sur le fil du rasoir, ça c'est sûr. Il le sait, il l'a intégré. D'ailleurs, l'une des plaisanteries qui circulait en avant-saison entre les journalistes, c'était on a renforcé le staff avec l'arrivée d'Hansi Flick, qui était l'ancien adjoint de Joachim Löw en sélection. Parce que Flick, dès que Kovac va sauter, va être le renfort immédiat et on n'aura pas besoin de chercher à l'extérieur du club. Donc on a déjà la réponse en interne lorsque Kovac va sauter s'il y a 3 défaites d'affilée. C'est sur le ton de la plaisanterie,
Flick
mais
la
ça
police,
peut
quoi.
Vite,
j'ai l'impression que
si
Flick...
vous voulez,
ça peut
vite,
si je peux me permettre.
Ça peut vite devenir une réalité. Pour ma part, je crois en la qualité de Kovac parce qu'il a déjà affronté pas mal de tempêtes avec succès. Donc
c'est
ça peut continuer. Donc la réponse, elle est là. C'est que si ça se passe mal, oui, on a déjà des solutions qui sont prévues. Et pour ce qui est des recrues, alors je suis pas tout à fait d'accord, parce que oui, il y a l'exception Lucas Hernandez. On a mis une grosse somme d'argent sur un défenseur champion du monde qui est fort, et on a estimé au Bayern que c'était nécessaire, dans l'air du temps effectivement, avec l'inflation des prix, et notamment parmi les joueurs défensifs. À côté de ça, on a quand même encore les oursins dans les poches. Il y a eu un embouteillage de recrutement parce qu'on attendait de savoir ce qu'on allait faire avec le Roi Sané.
C'était pas gratuit, le Roi
Sané. Non, c'était pas gratuit, mais ça ne s'est pas encore fait, ça reste encore possible.
Exactement. Il y en a quand même pour 8 mois, non?
Ouais, 7-8 mois. Oui, bien sûr, mais ça peut être une manière de tirer les prix vers le bas, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc pour moi, Lucas Hernandez est encore une exception, et au Bayern, on continue d'essayer de faire de bonnes affaires. On a fait venir James Rodriguez il y a 2 ans en prêt pour 12-13 millions d'euros, avec bien sûr plus s'il était acheté derrière, mais c'était une bonne affaire.
Alphonso Davies peut-être aussi.
Alphonso Davies, quelques millions du Canada. On a fait venir tout récemment donc Ivan Perisic. puisque c'est comme ça qu'il faut prononcer. Il l'a lui-même confirmé en conférence de presse.
C'est dur à dire en radio.
Oui, c'est dur à dire. Pour quelques millions d'euros aussi en prêt, avec option d'achat derrière. Donc, Dominique, alors, oui et non.
Je suis un dossier à Paris qui s'appelle Neymar, avec une transaction avec Barcelone et Coutinho.
Oui.
Coutinho a été pisté.
Absolument.
Coutinho, le Barça,
je confirme.
Entre 100 et 120. Donc, à un moment donné, quand on réfléchit à faire des transferts à 100, 120, c'est qu'on a changé de politique.
Mais c'est qu'on veut lutter pour gagner la Ligue des Champions aussi.
D'une part, parce que, au final, quand Lewandowski fait ce discours-là, on l'entend, je veux des bons joueurs, au final, je veux faire des choses. Il est pas en train de dire je veux gagner le championnat. Le championnat, le Bayern est sur je ne sais plus combien de titres d'affilée, 7 titres d'affilée. C'est pas le championnat qui vise. Lewandowski, c'est un joueur dont on entend parler depuis des années au final, mais on le rappelle, il n'a jamais réussi à soulever ce trophée-là. Oui. Il a été en finale face au Bayern à l'époque avec Dortmund, il l'a perdu en finale. Donc lui, Lewandowski, il va avoir des joueurs pour pouvoir réussir enfin à soulever ce trophée.
C'est le pareil pour Manuel Neuer qui a tenu à peu près le même discours.
Ils savent que ces trophées-là, on les gagne qu'avec on les gagne pas avec Kingsley Coman et Tolisso quoi.
Et c'est exactement ça. S'ils sont en forme.
Et voilà, parce que par exemple sur les côtés, on parle de Robéry et ce duo n'est plus là. Le souci, c'est que maintenant, vous avez Kingsley Coman qui se blesse tous les deux mois. Vous avez sinon Serge Gnabry qui se blesse relativement souvent aussi. Aujourd'hui, sur les ailes, j'ai plus personne. Perisic qui pourrait jouer, pourquoi pas sur ses ailes d'ailleurs. C'est souvent là où il est bon. Mais sinon, vous êtes vraiment en difficulté. Et le Bayern, moi, je vois ce... Ils sont dans l'obligation, sauf que c'est dans pas longtemps.
Mais oui, à nous dire c'est qui ils vont recruter.
Non, mais ça a été déjà à peu près dit. Ça a été déjà à peu près dit.
Je peux le dire. Parce que son agent veut pas.
En tout cas, les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs n'ont pas leur mot à dire, quoi qu'ils peuvent faire pression, bien sûr, mais l'entraîneur et les dirigeants ont bien reprécisé ces dernières heures qu'ils allaient se renforcer. Il y a jusqu'au 2 septembre en Allemagne pour recruter.
Mais qu'est-ce qui circule? Dybala, ce qui est sur le marché? Qu'est-ce qui circule
C'est de ce niveau-là.
En tout cas, c'est que le Bayern nous a pas habitués à ce genre de choses. D'habitude, le Bayern a relativement tôt, entre guillemets, dans la période du mercato estival. C'est apaisé. On connaît l'effectif, grosso modo. Et s'il y a une opportunité, ça se fait. Mais là, qu'il y ait autant de questions autour du Bayern, c'est peut-être que oui, le Bayern est en train de
changer.
D'évoluer,
de
tourner la page, alors que le Dortmund, de l'autre côté, c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme.
Les deuxièmes années de Lulu Favre, en général, sont encore meilleures que les premières années, donc
c'est bien parti.
Attention pour le Bayern.
Saïd, ce qu'on se demandait, nous, c'était qui pourrait peut-être troubler ce mano à mano.
Si on lui enlève 12 ans à Saïd,
on va lui enlever la
discipline. Ribéry et Robben, 12 ans en moins.
Non, je pense que personne peut troubler ce mano à mano, comme vous l'ont souligné. Le Borussia Dortmund s'est bien renforcé. Maintenant, c'est au tour du Bayern de Munich de se renforcer.
Non, mais derrière, justement.
Oui, derrière. Ben, je vois, enfin, Leipzig peut éventuellement faire quelque chose, ou Francfort, qui sort d'une belle saison en Ligue Europa, aurait peut-être aussi son mot à dire. Mais à part ces deux-là, peut-être pourquoi pas le Borussia Mönchengladbach aussi, qui peut s'immiscer dans la course. Mais il n'y a pas vraiment d'adversité. On verra surtout la course entre Dortmund et le Bayern Munich.
C'est ça. Il y aura des rencontres. David, vous allez me confirmer ou pas, mais il y aura des rencontres peut-être où effectivement Leipzig et d'autres réussiront effectivement des coups. Mais sur 34 journées, ça me paraît délicat peut-être.
C'est pas le point de vue qui est répandu en Allemagne. Le RB Leipzig, effectivement, est considéré. Et d'ailleurs, lui, tout doucement, commence à dire, tiens, on aimerait bien viser le titre. C'est une première étape.
Tout doucement.
Oui, mais parce qu'on peut pas dire.
Ils jouent sur les jeunes, effectivement.
Exactement.
Donc c'est notre politique.
Et il y en a deux qu'on n'a pas cité. L'un, parce que vous l'avez pas vu venir, il vient de trop loin. C'est le Hertha Berlin qui a récupéré un nouvel investisseur et qui va donc avoir plus d'argent. Et l'autre, c'est le Bayer Leverkusen qui a conservé un joueur que je vous suggère de bien regarder. C'est ce jeune Kai Havertz, numéro 10, qui va jouer encore très probablement une saison pour le Bayer. Et ça peut aider ce club à venir titiller les grands au moins sur quelques matchs.
Qui est le futur meilleur joueur de l'équipe d'Allemagne, c'est une évidence.
Oui.
Le Hertha Berlin, on le verra en gros plan, puisque c'est lui qui ouvre le bal dès demain soir. Bayern, Munich, Hertha Berlin, pour commencer cette saison de Bundesliga. Allez, on file vers notre page Culture Foot.
Quand vous entrez à la cancha, se va la vida, se va tout.
Une fois sur le terrain, on oublie le quotidien, on oublie tout. Pour moi, le ballon, c'était le plus beau des jouets. Je dois tout au ballon.
Football est le jeu de l'engagne.
Le football, c'est l'art de la feinte.
Le 5 juillet 1984, une date historique dans l'histoire de Naples. Qu'on aime ou pas le football, qu'on aime ou pas Maradona, ce jour-là, l'Argentin entre dans le stade San Paolo où l'attendent 75 000 personnes. La foule veut voir la star du football, un jeune Diego Armando Maradona de 23 ans qui a préféré le sud de l'Italie à la Catalogne et au Barça. Un film du Britannique Asif Kapadia, présenté en mai dernier au Festival de Cannes, est sorti sur les écrans français il y a quelques semaines, nous raconte donc les 7 années passées par El Pibe de Oro au club de Napoli jusqu'à son départ, sa fuite même peut-être peut-on dire, à l'hiver 1991, l'idole déchue, abandonnée de tous, trahie par tous aussi, et finalement cette période napolitaine est le résumé de la vie de cet artiste du ballon qu'en fait ce documentaire. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Annie.
On parle de Maradona, on parle de l'Argentine, alors on vous a appelé en renfort, mais d'abord je vais me tourner vers Dominique, parce que Dominique, vous avez aussi vu ce documentaire, et c'est un film qui produit beaucoup d'émotions.
Oui, c'est comme en journalisme, il y a un angle, c'est-à-dire que le réalisateur a choisi de se concentrer sur les années napolitaines de Maradona. Il ne parle pas tellement de Barcelone, il y a quelques images, mais voilà, ou de Séville. On reste vraiment. Il y a évidemment des images avec l'Argentine, parce que pendant ce temps-là,
de son enfance, la Boca.
Voilà. Mais ça dure 2h10 et c'est vraiment concentré sur les années napolitaines avec beaucoup d'images d'archives. Dont certaines étaient inédites, et puis quand bien même vous les avez déjà vues, ça vous rafraîchit un peu la mémoire, parce que là c'était pas il y a 12 ans, mais c'était il y a quand même plutôt 30 ans,
une trentaine d'années.
Voilà, et on peut se demander dans le foot d'aujourd'hui, parmi les vivants, quel est le personnage le plus romanesque du football mondial. J'en vois pas d'autre au-dessus de Maradona. Je pense que qu'on aime sa vie, qu'on l'aime pas, qu'on trouve qu'il soit gâché, qu'on trouve qu'il ait fait des erreurs, ou qu'on trouve qu'il ait été le plus grand footballeur de tous les temps. Il y a débat avec Pelé, avec Messi, voilà, à peu près.
Mais il est à part.
Et pour moi, je connais pas un garçon qui a une vie aussi riche, aussi mouvementée, aussi romanesque que Maradona. Elle est belle sa vie. Alors peut-être que la fin, la chute, elle est à l'image de ce qui précède, elle est sublime, la chute elle est forte, elle est douloureuse,
elle est violente,
mais elle est violente, elle est cruelle, mais voilà, je pense pas faire que j'aurai la même matière avec un film sur Cristiano Ronaldo, Messi ou Zidane.
Mm-hmm. Alejandro, est-ce que ce film, vous qui êtes argentin, qui connaissez bien sa vie, qui avait côtoyé, qui avait promené Maradona dans Paris une fois aussi, même la nuit,
attention Alejandro, attention,
n'est-ce pas, est-ce que vous avez trouvé aller voir la santé. Est-ce que vous trouvez aussi que ce film est à part?
Oui, c'est.
Il y en a eu
film.
Déjà. Hein, on oui, connaît celui de Costa Rica. Bah, il y a eu pas mal de documentaires.
C'est vrai, ce que dit Dominique. C'est un personnage qui fascine et quand on a la chance de l'avoir côtoyé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui dans les films apparaissent de façon peut-être un peu fugitive. C'est qu'il y avait deux personnage en lui, comme souvent dans les personnalités célèbres, mais chez lui c'était vraiment magnifié. On avait un Diego qui était dans l'intimité ou quand il n'était pas sous les projecteurs, qui était quelqu'un d'adorable et qui était très généreux et qui était très intéressant aussi parce qu'il avait, une façon de vivre la vie, de croquer la vie et qui donc était toujours assez passionnant à écouter. Et puis il y avait les personnages Maradona qu'il s'était construit peut-être pour se protéger, mais qui peu à peu a fini par prendre le dessus à certains moments. Et malheureusement, c'est un peu la tragédie de Maradona, c'est d'avoir bouffé le Diego qu'on a connu et qui peu à peu s'est perdu.
Ça raconte, Annie, plusieurs choses. Ça raconte les rapports nord-sud, à la fois dans l'Italie et en Europe, qui sont toujours prégnants 30 ans plus tard. C'est des questions qui traversent encore l'Europe, les rapports nord-sud. Ça raconte la chute d'un homme et la création d'une idole un peu artificiellement par les médias, par l'environnement. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans un univers de télévisuel où on aime bien avec la télé-réalité fabriquer des idoles, avoir comme ça. Et lui, il y a mis du sien parce que ça raconte aussi un génie, un gaucher fantastique, un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ça raconte le football aussi un petit peu parce qu'il y en a, il y a quelques images de foot qui sont filmées complètement différemment de ce qu'on voit aujourd'hui avec un produit un peu léché, un peu aseptisé. Là, c'est souvent filmé du sol avec que des coups qui sont d'une violence inouïe, parce que la protection des arbitres...
Parce que quand il parle de l'art de la feinte, c'était pour éviter tous ces défenseurs italiens qui le démontaient. Hein.
On s'aperçoit que le football était beaucoup plus rugueux à l'époque, dans un championnat pourtant qui était un peu fermé, mais il y avait quand même quelques stars, quelques beaux joueurs. Ça raconte la mafia, ça raconte l'Italie, ça raconte vraiment beaucoup de choses. C'est 2h10, c'est pas du tout sur du vraiment que sur du foot.
Non, c'est une histoire humaine.
Voilà. Juste une dernière chose d'un point de vue cinéma, un truc intéressant, c'est que le film est sorti fin juillet, début août, et il y avait assez peu de salles, et il devait disparaître de l'affiche assez rapidement, et il y a plus d'écrans à Paris aujourd'hui que lors de sa sortie. Ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne, et que les gens se passent le mot, et s'il y a plus d'écrans, ce qui est assez rare, parce qu'en général, le film sort, puis on l'enlève jusqu'à ce qu'il disparaisse, là les écrans augmentent, ça veut dire que les gens y vont.
Et alors justement, dans ce personnage, on parle de Diego et de Maradona, et bien sans doute, ce match, ce quart de finale en 1986 à Mexico contre l'Angleterre, en Angleterre-Argentine, résume fort bien ce dilemme du personnage, et notamment ce but.
Una villana así fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó Maradona, a dónde fue que corrió
Maradona, qui chante, c'était dans le film de Costa Rica, et c'est la mano de Dios. Alors effectivement, il y a ce but qu'on dit être le but du siècle, où il traverse la moitié du terrain, où il évite 7 défenseurs anglais. Je me souviens de Didier Roustan qui avait un t-shirt comme ça, où on voit le parcours qu'il fait sur le terrain avant de marquer son but.
Ça traînait sur un t-shirt.
Oui, ça a été imprimé sur un t-shirt. Et puis il y a donc ce but génial qui vient 3 minutes après, celui qui est le fameux but de la main. Et quand on avait demandé à Maradona s'il avait marqué de la main, il a dit c'est la main de Dieu, et c'est le titre de la chanson. Saïd, vous qui avez moins de 20 ans, ou presque, en tout cas moins de 40, qu'est-ce que c'était pour vous Maradona?
Justement, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure. Pour moi, Maradona ne représente malheureusement pas grand-chose, puisqu'on ne l'a pas vu jouer, et quand on ne s'en renseigne pas, c'est difficile d'avoir de l'amour pour le personnage. Mais là, depuis ce matin, je suis sur le dossier. J'ai vu des reportages et lu de bon nombre d'articles dessus. C'est vrai que c'est un personnage tellement charismatique qui nous englobe en fait dans le foot, et on a presque du regret de ne pas avoir vécu à son époque, de ne pas avoir connu en fait cette euphorie. J'aurais aimé voir un match au San Paolo, voir Diego Maradona illuminé sur le terrain de par ses gestes de classe.
Ouais.
Comme ça, au final, j'ai peu de souvenirs, même si je suis un petit peu plus âgé que lui.
Oui,
mais, moi,
va, hein.
Mais moi, j'ai un souvenir qui est post-documentaire Naples, qui est avec la sélection argentine de la Coupe du Monde 94, hein, où justement, au final, on voit les deux phases, j'ai envie de dire, de Maradona, capable de mettre un but fantastique. C'était face à la Bulgarie ou Niger,
la Grèce,
c'était l'autre équipe. Donc il met un but génial, et quelques jours après il est suspendu pour contrôle antidopage positif, enfin, en tout cas la cocaïne. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi.
C'était de l'éphédrine,
pardonnez-moi. Mm. Mais en tout cas voilà, c'est aussi ça Maradona, et on l'a vu tout au long de sa carrière.
Alejandro, qu'est-ce qui devient Diego Maradona en quelques mots?
Il a entraîné une équipe mexicaine jusqu'au mois de juin. Là après il a eu des gros problèmes de santé, il a été opéré du genou, il a pas mal d'ennuis de santé, donc il est en Argentine. il va peut-être, si sa situation s'améliore, entraîner un club. Mais bon, pour l'instant, il ne fait rien de particulier.
Devenir de Radio Foot.
Il devrait, comme Abid Bey. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, monsieur, d'avoir collaboré aujourd'hui.
Merci, Abid Bey. Merci, Abid.